Les locaux du bio. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des locaux du bio, le premier épisode de l'année 2026, notre rendez-vous en partenariat avec la Biocoop Le Grenier. Nous recevons aujourd'hui Adrien Mégy, associé au GAEC de la Morelle, producteur de pommes, mais pas seulement, à Melves dans les Alpes de Haute-Provence. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc on va parler ensemble de votre GAEC et de votre production qui est assez vaste, on en parlera. Bien sûr, comme toujours, à nos côtés, Camille Danel, chargée de communication à la Biocoop Le Grenier à Gap. Bonjour Camille.
Bonjour Lucie.
On pourra donc parler ensemble de l'histoire du GAEC et de sa fondation. Bien entendu, on va évoquer toute la variété des produits que vous proposez et puis on pourra aussi parler des impacts du changement climatique et de ce que vous mettez en place au GAEC de la Morelle, avec évidemment un petit temps accordé aussi à la manière dont vous cultivez. Locaux du bio. Peut-être qu'on peut commencer par le début, Adrien, au GAEC de la Morelle, c'est une histoire de famille. Comment est-ce qu'est née cette exploitation? Est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle est née déjà, cette exploitation?
Alors elle est née dans les années 50, c'est mon arrière-grand-père qui l'avait rachetée. Et après mon grand-père a pris la suite, et puis mon père, et maintenant c'est à mon tour.
C'est vraiment une histoire qui se transmet de génération en génération. Est-ce que ça a toujours été un GAEC, du coup, un groupement agricole d'exploitation? Est-ce que ça a été autre chose? Ça a eu d'autres formes?
Ça a eu d'autres formes. Ça a été un EARL aussi, passé un temps. Après, ça s'est transformé en GAEC.
Alors, je l'évoquais tout à l'heure, vous avez une grande diversité de produits que vous proposez. Vous êtes essentiellement tourné vers la pomme, mais il y a aussi d'autres choses. Est-ce qu'il y a eu toujours autant de diversité ou est-ce que ça a commencé par la pomme et puis finalement vous êtes tourné vers autre chose?
Ça a plutôt commencé par l'élevage et après, par la suite, mon grand-père a commencé un petit peu la culture de pommes. Et après, mon père l'a développé avec plus de variétés. Mais il y a toujours eu cette partie élevage sur l'exploitation.
Donc c'est deux choses qui sont présentes. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous tournez beaucoup vers la pomme maintenant?
Votre papa avait évoqué que c'était le fait que ça soit sur un plateau et du coup qu'il y a une belle exposition au niveau du soleil et du coup que c'était parfait pour l'arboriculture.
Oui, oui, on a un bon terroir pour l'arboriculture. Et après, c'était dans les années 80. C'est vrai que la pomme s'est pas mal développée dans les Alpes, où mon grand-père a commencé à en mettre un petit peu. Et après, mon père est passé en bio pour se démarquer des autres producteurs. Et c'était un peu un précurseur là-dedans, parce que dans les années 90, le bio, on n'en parlait pas beaucoup. Et du coup, il était passé en bio à ce moment-là.
Vous évoquez qu'il est passé en bio très tôt, dans les années 90, en 98 très exactement. Comment ça s'est passé, ce passage-là? Est-ce qu'il y a eu des défis à relever?
Oui, il y avait pas mal de défis, parce que il y avait très peu de techniciens compétents sur le sujet. Du coup, il a fallu que mon père, parce que moi, j'étais pas encore installé, se débrouille un peu tout seul pour la production. Du coup, qu'il aille faire des formations, tout ça, parce que niveau technique, on était un peu seul, un peu mis de côté, vu qu'on était un peu les seuls bio avec quelques autres producteurs.
Et maintenant, vous n'êtes plus du tout les seuls, finalement. Est-ce que vous êtes devenu une référence avec l'expertise qu'il y a depuis tout ce temps-là?
Une référence, je sais pas, mais il y a eu une mode où c'est que beaucoup de producteurs sont passés en bio. Là, maintenant, ça repart plutôt dans l'autre sens. Il y a beaucoup de producteurs bio qui retournent en conventionnel. Il y a eu un peu des effets d'opportunité. Nous, on est resté dans la lignée qu'on a depuis bientôt 30 ans dans le bio.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie, enfin plutôt qu'est-ce qui a donné envie à votre père en particulier de passer en bio?
Bon, c'était surtout par conviction et puis pour se détacher des autres producteurs, vu qu'on a quand même un terroir particulier sur le plateau de Melves avec une qualité de fruits assez exceptionnelle, on peut dire. Pour se démarquer des autres producteurs, on était passé en bio à ce moment-là pour avoir une plus-value et se faire connaître nos produits.
Et vous, Adrien, en termes de parcours de votre côté à vous, comment est-ce que vous êtes arrivé dans le GAEC? Vous avez fait un BTS technique, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, oui, j'ai fait un BTS en horticulture à Avignon. Et après, je me suis installé dans le GAEC. Voilà.
Vous avez eu toujours cette envie de rejoindre? Est-ce que c'est venu petit à petit?
Oh, c'est venu plus petit à petit. Après, j'ai toujours baigné dedans. Plus ça allait, plus ça me plaisait. Du coup, ça s'est fait naturellement.
Est-ce que vous aviez des idées en tête en rejoignant le GAEC aussi?
d'idée, oui, encore plus diversifier les variétés de pommes. Ce que faisait mon père me convenait bien. Il était assez précurseur dans ce qu'il faisait. C'est vrai que du coup, il n'y avait pas forcément beaucoup de nouveautés à apporter. Il fallait surtout continuer ce qu'il faisait pour l'améliorer. Il était déjà pas mal en avance pour son temps.
Camille.
Et est-ce que, par exemple, le fait d'avoir fait votre BTS en horticulture, ça a pu vous aider pour trouver des solutions plus innovantes? Je sais qu'en bio, c'est difficile, notamment la lutte contre les nuisibles ou contre les maladies. Ça a pu vous permettre de trouver d'autres solutions, d'autres alternatives plus efficaces?
Pas forcément, non. C'était plutôt les stages qui m'ont permis d'acquérir l'expérience. Et j'ai fait des stages dans des stations d'expérimentation pour aller vraiment au fond des choses, mais sinon sur le côté cours et tout, il n'y avait pas trop d'intérêt au niveau arboriculture, c'était plutôt sur le côté maraîchage.
Et en bio, ils étaient quand même assez ils avaient une expertise à vous donner ou non, c'était vraiment plus sur le conventionnel et le bio, c'était pas encore trop étudié?
Sur le maraîchage bio, oui. Après, au niveau arboriculture bio, non, pas du tout. On n'avait pas vraiment de professeur compétent là-dessus.
Pour en revenir à votre rôle dans le GAEC, le fait que vous ayez toutes ces formations, vous faites aussi quelques... Peut-être, est-ce que vous apportez des nouveautés? Est-ce que vous faites des expérimentations aussi avec toutes ces choses-là que vous avez apprises?
Oui, on fait des expérimentations dans les vergers, oui, bien sûr. Mais après, c'est plus au fil du temps, quand il sort des nouveautés, des nouvelles variétés, on expérimente, on essaie de nouvelles choses, des nouvelles techniques.
Alors parlez-nous de ça justement, comment est-ce qu'on expérimente dans un verger pour les gens qui n'ont pas de rapport à la terre?
On essaye plusieurs modes de conduite, si on conduit un arbre en axe, si on le conduit en double axe, plusieurs distances de plantation, si on essaie des techniques avec des filets alto-carpo, avec des différentes techniques de taille, des différentes formes d'irrigation aussi.
Et est-ce que ça a un impact sur le produit fini? Quel impact est-ce que ça a?
Sur le produit fini, pas vraiment, si peut-être des fois un peu plus niveau coloration, c'est plus au niveau rendement et niveau facilité de travail qu'au niveau du produit fini.
Donc là, vous, c'est là-dessus que vous expérimentez, que vous faites un peu de recherche à côté. Quelle place est-ce que ça a dans le GAEC?
Après, c'est surtout des recherches qui se font à l'étranger, dans des pays comme l'Italie ou la Suisse, qui sont bien plus en avance que nous sur le bio. Mais quelle place ça a, on essaie d'y consacrer du temps, mais après, c'est pas évident non plus, parce qu'il y a tous les à côté à faire, il y a la production. On peut pas tout le temps être dans l'expérimentation non plus, sinon on n'arrive plus à produire.
Un arbre fruitier, un pommier, ça, il met combien de temps à produire?
Au bout de 5-6 ans, on a une récolte qui commence à être intéressante.
Et oui, du coup, si vous tentez des nouvelles variétés, tout ça, ça met au moins 5 ou 6 ans à produire, c'est ça?
Oui, oui. Et puis au début, ce n'est pas toujours représentatif de la variété. Un jeune arbre, en général, il a toujours tendance à produire, à faire des jolis fruits. Dès que l'arbre commence un peu à vieillir, on voit les défauts des variétés apparaître, souvent.
Donc ça met vraiment du temps avant de voir les résultats.
Oui,
et,
oui.
Et je voulais vous demander aussi, vous, vous êtes du coup assez jeune, comment est-ce que ça se passe? Là, on entend beaucoup parler du fait que les jeunes agriculteurs ont du mal à s'installer. Vous, comment est-ce que vous percevez les choses?
Et c'est vrai que je vois dans le monde de l'arboriculture, des jeunes générations, il y en a beaucoup moins. De ma génération, on était encore assez nombreux à reprendre des exploitations, mais la génération d'après, il y en a très peu. Surtout parce que pour acheter une exploitation, si c'est pas hors cadre familial, c'est très compliqué. Des vergers, ça coûte extrêmement cher. Et ça, aujourd'hui, un hectare de verger à planter, ça coûte au moins 50 000 euros. Du coup, avec le foncier plus les arbres, pour se lancer de zéro, c'est très compliqué.
Donc il faudrait idéalement que les jeunes puissent reprendre d'anciennes exploitations qui existent déjà pour pouvoir s'installer.
Oui, et après le problème, il faut avoir les financements et l'argent derrière, et que les banques suivent. C'est aussi ça le problème, c'est que le marché de la pomme n'est quand même pas extrêmement porteur. Du coup, si vous allez voir une banque et vous lui dites « il me faut 1 million d'euros pour m'installer en arboriculture », je pense que ça ne doit pas être évident d'avoir les accords de prêt.
Et donc la solution de travailler dans un cadre familial facilite aussi l'installation, j'imagine?
Ah oui, oui, oui. Oui, c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, si c'était hors cadre familial, je ne pense pas que je me serais installé en arboriculture.
peut-être aussi Camille ou bien Adrien, évidemment. Depuis combien de temps est-ce que la Biocoop Le Grenier vend les produits de la GAEC?
Je pense que ça doit faire une bonne vingtaine d'années.
Ouais, le grenier Daudet, donc le magasin qui est rue Alphonse Daudet à Gap, il a ouvert en 2001. Et vu que le GAEC passait en bio en 98, je pense que ça a dû être vers ces eaux-là, ouais, au début des années 2000. En tout cas, moi, j'ai toujours connu la famille Meiji comme producteur de nos pommes. Et 90% des pommes qu'on vend au grenier viennent de la production de la famille Meiji.
Et avant de continuer, Adrien, Camille, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Adrien, c'est vous qui aviez proposé qu'on écoute Louise Attaque et le grand classique Je t'emmène au vent. Alors on fait une petite pause ensemble, on écoute ça et on revient tout de suite après pour les locaux du bio.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle.
Louise Attaque, le titre « Je t'emmène au vent » dans l'épisode des locaux du bio sur Fréquence Mistral. Vous êtes dans le premier épisode de l'année, l'épisode numéro 14 des locaux du bio. Alors, je suis aujourd'hui en compagnie d'Adrien, du GAEC La Morelle et évidemment de Camille Danel, chargée de communication à la Biocoop Le Grenier. Nous avons pu parler un petit peu de l'histoire du GAEC et également de votre histoire, Adrien. Et donc là, je vous propose qu'on passe ensemble à la suite de cette émission. Locaux du bio. Peut-être qu'on peut parler justement de la production du GAEC de la Morelle. Vous avez, je l'évoquais tout à l'heure, une grande variété de production. Est-ce que vous pourriez nous parler de la variété de production des pommes, évidemment, puisque c'est le sujet principal, mais pas seulement?
Oui, bah après, en variété de pommes, on en a une grosse vingtaine de variétés de pommes. Voilà, qui sont, on essaie de les échelonner dans la saison, d'avoir des pommes précoces et plus tardives pour essayer de fournir les biocopes le plus longtemps possible. Et on a aussi tous les produits transformés. On a les jus de fruits, les purées, le cidre, le pétillant.
Vous parlez du fait que vous essayez d'avoir de la production tout au long de l'année. Est-ce qu'il y a quand même des grosses périodes, des périodes particulièrement chargées? Et si oui, lesquelles?
Oh, il y a la période de la récolte, de septembre-octobre. C'est pendant 2 mois, on récolte les pommes. C'est vrai que là, c'est quand même assez chargé. Et après, il y a, pendant tout l'hiver, on trie nos pommes, on les conditionne, on les met en caisse et on les vend au biocop. Voilà. Et en même temps, il faut tailler, il faut entretenir les vergers. Du coup, on est bien occupé toute l'année.
Ah, donc finalement, il n'y a pas un seul moment de répit au cours de l'année?
Non, il y a toujours quelque chose à faire.
Camille.
Puis vous avez aussi l'élevage qui continue toute l'année.
Oui, 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 on a l'élevage. Vu qu'on est quand même assez haut en altitude et qu'on n'a pas des terres très très productives, on a toujours gardé une partie d'élevage et on se sert beaucoup des fumiers pour fertiliser les arbres. C'est un bon compromis, hein. L'élevage et l'arboriculture chez nous, ça va bien ensemble.
Ça fait bon ménage. Alors, dites-nous quelques mots justement de l'élevage. Qu'est-ce que vous faites exactement?
Alors, on a des vaches de la race Salaire. Voilà, on a une quarantaine de mères. Et on fait de la vache allaitante. On fait aussi des génisses qu'on vend aussi à la biocoop, au grenier. Voilà, et on fait aussi des veaux de lait.
Vous le disiez, c'est très complémentaire finalement, l'élevage et l'arboriculture, puisque vous utilisez le fumier pour les arbres.
Oui, oui, exactement. Ça permet d'avoir une fertilisation. On sait ce qu'on met dans nos arbres, quoi. C'est des effluents d'élevage. On sait d'où ça vient. On sait.
Voilà. Oui, ce que vous leur avez donné à manger aussi, j'imagine.
Voilà. Nous, elles mangent exclusivement les produits de la ferme, quoi. Elles mangent du foin et les céréales de la ferme. C'est rassurant. Quand on met les effluents d'élevage, on sait ce que c'est.
Est-ce que c'est commun d'avoir ce fonctionnement-là, justement?
De moins en moins. Avant, il y avait plus d'exploitations en polyculture élevage qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on spécialise de plus en plus. Les arboriculteurs sont plus qu'arboriculteurs et les éleveurs sont souvent plus qu'éleveurs.
Camille.
Ce qui est un peu dangereux, en tout cas pour la culture de pommes, parce que si une année, vous avez un gel tardif et que vous perdez une grosse partie de votre production... Enfin, bah, pas vous, mais les autres arboriculteurs, bah, ils sont coincés. Alors que vous avez toujours un petit peu d'élevage pour pouvoir sauver un peu l'activité, quoi.
Oui, oui, c'est sûr. Et surtout, depuis 2017, on gèle quasiment une année sur deux. Voilà, 2017, on avait gelé à 100%. 2019, quasiment aussi. Du coup, c'est vrai qu'on est content d'avoir une partie élevage quand ce genre de choses nous arrive.
Alors, pour se rendre compte des conséquences du gel, ça veut dire que vous perdez une majeure partie de votre production. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Eh ben, c'est au moment de la floraison du pommier, au mois d'avril en général, avril-mai. De plus en plus, on a des hivers qui sont de moins en moins froids et des mois de février plus chauds. Du coup, l'arbre démarre bien avant ce qui se faisait avant. Et du coup, il démarre en général 3 semaines, un mois avant. Et après, arrivé au mois de mars-avril, on a des gelées qui nous brûlent les fleurs. Voilà.
Un gros impact sur la production. Est-ce que ça a un impact? Vous parliez du fait que vous avez une vingtaine de variétés de pommes. Est-ce que ça impacte toutes les variétés? Est-ce qu'il y en a qui sont plus résistantes?
Plus résistantes, non, mais il y en a qui sont plus tardives. On essaie de trouver des variétés plus tardives, mais c'est pas évident parce que c'est pas ce que recherchent principalement les pépiniéristes quand ils créent une variété. Ils cherchent d'autres critères, la production, la couleur, la conservation, mais la période de floraison, ils y travaillent de plus en plus, mais c'est vrai que pendant 10-15 ans, ils regardaient pas du tout ça. Du coup, on essaye de trouver des variétés qui fleurissent le plus tard possible.
Est-ce que ça a un impact aussi, du coup, j'imagine, sur le choix des variétés que vous produisez?
Oui, oui, oui. Du coup, il y a des variétés qu'on a plantées il y a une dizaine d'années. S'il y a à refaire, on ne le referait pas. Des variétés qui fleurissent vraiment très tôt. Du coup, il y en a qui sont 15 jours avant d'autres variétés. Et celles-là, elles craignent le gel 15 jours de plus, quoi.
Et ce qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'un arbre fruitier prend à peu près 5 ans à produire. Donc du coup, ça aussi, c'est des choix de long terme à chaque fois.
C'est des choix de long terme et après, il ne faut pas se tromper parce que sinon, on le paie pendant longtemps.
Camille.
Et c'est quoi pour vous votre variété de pommes préférée?
Moi, je les trouve toutes bonnes, mais celle que je préfère, c'est la topaze, parce qu'elle est acidulée et j'aime bien les pommes acides.
On essaiera de la goûter. En tout cas, on invite nos auditeurs et auditrices à la goûter. Camille, est-ce qu'il y a d'ailleurs des produits qui sont particulièrement bien vendus à la Biocoop dans les produits de la GAEC, du GAEC ?
Eh bien, oui, bah, toutes les variétés de pommes, parce qu'il y a des pommes qui sont plus à croquer, des pommes très connues par tous, comme la Gala, et d'autres variétés qui sont moins connues, comme par exemple la topaze. Et également les produits finis qui sont très plébiscités. Donc, il y a le jus de pomme. Là, en plus, on est le mois de janvier, donc c'est le dry January, donc c'est l'occasion de tester des jus. Il y a le pétillant de pomme qui est sans alcool. On vend également pas mal les purées de fruits. Elles ont un goût vraiment particulier, très fruité, comparé à d'autres purées de pommes classiques. Voilà.
C'est aussi quelque chose de bon à savoir. Comment est-ce que ça se passe, la transformation, Adrien ? Est-ce que c'est vous qui la faites ?
Non, la transformation, on l'a fait faire à des prestataires, parce que c'est quand même beaucoup d'équipements, et il faut faire vraiment des gros volumes, et nous, c'est pas trop notre objectif de faire des gros volumes. On préfère le faire à des artisans qui travaillent très bien. On leur envoie nos pommes, et ils nous renvoient les produits transformés. Voilà.
Passer à la suite, on peut aussi parler, on vient de l'évoquer quand même en quelques mots, mais plonger un peu plus sur les impacts du changement climatique, savoir un petit peu comment ça se passe, vous, quels sont déjà, qu'est-ce que vous observez en termes d'impact ? Donc on a parlé des gelées, est-ce qu'il y a d'autres phénomènes que vous observez au GAEC en termes de changement climatique ?
Après, oui, le principal problème, c'est les gelées printanières, mais après on a aussi des nouveaux ravageurs qui arrivent. Vu qu'il fait de moins en moins froid l'hiver, on a des parasites qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, qu'on a aujourd'hui, comme les punaises, ce genre de problème.
Et au niveau de l'eau, par exemple, est-ce que vous remarquez que c'est plus compliqué d'avoir assez d'eau pour les arbres ? Est-ce qu'ils sont plus en demande d'eau ? Il y a plus de problèmes de sécheresse ?
Ça dépend beaucoup des années. On va dire que la pluie est de plus en plus regroupée en des périodes de fortes précipitations. Nous, on a un réseau d'irrigation privée. On a des retenues collinaires qui s'emplissent l'hiver et on arrose nos vergers après avec l'été. Du coup, on a une quantité d'eau définie, on peut pas plus arroser. Du coup, les années très sèches, c'est compliqué. Pour arriver jusqu'à la récolte, on espère qu'il y ait quelques orages qui passent dans l'été, sinon c'est compliqué de faire grossir les pommes jusqu'au mois d'octobre.
Et justement, j'allais vous demander un peu quelles sont les solutions que vous trouvez. Donc vous venez de parler de ce réseau d'irrigation, mais les solutions globalement que vous trouvez pour répondre à tout ça, par exemple, quand vous n'avez pas beaucoup d'eau sur une année.
Et ben, du coup, toutes les nouvelles plantations, on est passé en goutte à goutte pour économiser le plus d'eau possible, pour être sûr d'avoir assez d'eau pour irriguer toutes les plantations. Avant, c'était de l'arrosage par aspersion. Sur fondaison, ça passe plus d'eau à l'hectare. Et du coup, en goutte à goutte, on divise par deux la consommation. Ça nous permet d'être un peu plus flexible et d'être sûr d'arriver à finir l'été.
Alors expliquez-nous le goutte à goutte, parce que du coup, on a facilement l'image des arroseurs qui font... je ne suis pas du tout du domaine, donc ce sera très vague comme description, mais voilà, qui aspergent littéralement les champs. Et le goutte à goutte, comment est-ce que ça se concrétise ?
Eh ben, il y a deux formes. Nous, on a du goutte à goutte enterré aussi. Il y a deux rangées des petits tuyaux avec un goutteur tous les 50 cm qui débite à peu près 2 litres à l'heure, qui est enterré dans le sol de chaque côté de la rangée. Et après, il y a du goutte à goutte qu'on attache sur le tronc des arbres qui fait tomber une goutte tous les 50 cm, pareil, 2 litres à l'heure.
Ça vous permet de faire de l'économie d'eau, Camille ?
Ouais, du coup, moins d'évaporation, c'est ça le principal
Moins d'évaporation, et surtout, il y a une zone d'irrigation qui est moins importante. Le goutte à goutte, il arrose vraiment le pied de l'arbre, alors qu'une aspersion sur frondaison, ça arrose la totalité du verger.
Et sur les arbres qui sont plus vieux, est-ce qu'il y a des différences en termes de besoin d'arrosage ou par rapport aux arbres qui sont plus jeunes aussi ?
Ben, les arbres plus vieux sont plus résistants à la sécheresse, parce que du coup, ils ont un système racinaire qui est plus établi, qui va plus en profondeur. Par rapport à un jeune verger qui a encore des racines assez peu développées, et c'est sûr que les vergers les plus vieux sont moins sensibles à la sécheresse.
D'ailleurs, combien de temps est-ce que vous gardez en fruitier ?
Ça dépend, on va dire une trentaine d'années. S'ils produisent encore à 30 ans, on les garde. Ça arrive aussi qu'à 20 ans, ils sont en bout de course et qu'on n'arrive plus à faire produire nos arbres, on peut aussi les arracher à cette période-là. À peu près autour des 30 ans en général.
Ah, donc encore une fois, on revient à ça sur la longue durée pendant laquelle vos choix de variétés ont des conséquences. Et par rapport aux parasites, vous évoquiez tout à l'heure que vous avez de nouveaux parasites. Quelles sont les solutions que vous trouvez par rapport à ça ?
Il y en a très peu en bio, parce que en général on travaille beaucoup avec le avec les auxiliaires, et ça c'est des parasites qui arrivent et où on n'a pas encore d'auxiliaires présents chez nous. Du coup on essaie surtout de lutter avec des avec les filets halte-carpo, des filets halte-insectes, pour éviter que ces parasites entrent dans le verger. Mais sinon, on n'a pas trop d'autres solutions techniques aujourd'hui pour lutter contre ces parasites. Même en conventionnel, ils ont très peu de solutions aussi.
Ok, cette difficulté-là qui s'ajoute. Et pour les parasites auxquels vous êtes habitués, comment est-ce que vous fonctionnez ?
Ça dépend des parasites. Il y en a, comme le carpocaps, on travaille avec des virus. C'est le carpocaps, c'est le ver dans la pomme. Et c'est des virus qu'on pulvérise dans les arbres. Après, le ver le mange et ça le tue.
Voilà. Camille,
quand vous parlez d'auxiliaires, c'est quoi des auxiliaires ?
C'est des insectes qui mangent les ravageurs.
Pareil, je me rappelle qu'il y avait une histoire aussi de diffuseurs de phéromones pour que les parasites ne se reproduisent pas. Il n'y a pas une histoire comme ça.
Oui, c'est également pour lutter contre le carpocaps.
Okay.
C'est des phéromones, c'est des diffuseurs de phéromones qu'on met dans les vergers, qui diffusent des phéromones femelles. Du coup, les carpocaps mâles n'arrivent plus à retrouver les femelles. Et du coup, la reproduction ne se fait pas, ou se fait moins. Et ça permet d'avoir moins de vers dans les fruits.
Et en termes d'impact aussi, je crois savoir que vous mettez des choses en place, des solutions en place en dehors des cultures. Je pense par exemple aux bouteilles en verre que vous utilisez.
Oui, c'est une nouveauté. On va passer aux bouteilles au réemploi. Pour la prochaine transformation qu'on fait, ça sera tout en bouteille de réemploi pour pouvoir permettre c'est une consigne, de réutiliser les bouteilles en verre. Au lieu de les détruire et de refaire des bouteilles en verre, ça permet de les laver et de les réutiliser à l'infini.
Camille, est-ce que c'est vous qui avez poussé cette solution ? Quel est votre rôle là-dedans ?
Eh bien, je pense que c'est à la fois nos équipes qui en ont parlé à la famille Meji, et puis c'est directement la coopérative L'Incassable qui a contacté aussi, avec qui on travaille, hein, on coopère pour le réemploi dans les magasins, le réemploi des bouteilles en verre, et c'est aussi qui ont contacté les producteurs et un de nos plus gros producteurs locaux en bouteilles en verre, et bien c'est de jus du coup, et bien c'est la famille Meji, et qui livre chez nous au grenier, mais pas que, à pas mal de biocoop du 04 et du 05.
Une autre solution qui est mise en place pour continuer à avoir des impacts positifs. Je pense à une dernière problématique qui fait pas mal de bruit en ce moment. J'aimerais connaître votre avis là-dessus. Je pense aux accords du Mercosur qui font énormément de bruit. Est-ce que vous pensez que ça va avoir des impacts, vous, sur votre production et la vente de ce que vous produisez ?
Sur la production bio, je pense pas. Après, on ne sait pas vraiment ce qui va se faire. Mais après, c'est sûr que sur la production conventionnelle, quand on voit les normes qu'ils ont en conventionnel pour produire des pommes en France, c'est très compliqué. C'est sûrement les pommes les plus propres du monde en conventionnel. Et là, on les met en concurrence avec des produits qui viennent de l'autre bout du monde où c'est qu'ils n'ont pas du tout les mêmes normes sociales, environnementales. C'est de la concurrence déloyale.
Bon, bah donc on a votre perspective là-dessus. Est-ce que pour l'avenir, comment est-ce que vous voyez les choses avec tous ces enjeux-là, donc environnementaux bien sûr, et puis avec les politiques qui se déroulent, comment est-ce que vous percevez la suite des choses ?
Il faudrait une réforme profonde de l'agriculture, savoir vraiment ce qu'on veut, quoi. Si on veut produire en France ou si on veut tout importer notre nourriture. C'est à l'État de prendre les choses en main et de dire que qui comptent sur leurs agriculteurs et qui veulent qu'on produise en France.
Camille.
Et d'aider aussi, de soutenir beaucoup plus massivement l'agriculture bio. Parce qu'on le voit ici dans les Hautes-Alpes, les pommes en tout cas, les agriculteurs en conventionnel, ils subissent énormément les prix du marché, les ravageurs qui malgré les pesticides et tout ça, les ravageurs forcément deviennent de plus en plus, c'est de plus en plus compliqué pour les pommes en non bio. Et on voit bien que les solutions d'avenir, déjà pour l'utilisation de l'eau, pour l'agriculture en général, la bio fait partie de la solution. Et ça serait bien que l'État français prenne les choses en main et aide plus massivement les producteurs en bio.
Bon ben on va pouvoir pas tarder à conclure sur ces paroles. Peut-être Camille, quand même, avant de conclure, je voulais voir avec toi ce que la BioCoop met en place pour accompagner les producteurs justement dans tous ces enjeux-là qu'on vient d'évoquer.
Eh bien, on a un accompagnement qui peut être assez individualisé avec les producteurs et les productrices. Notamment, on peut acheter des produits qui sont hors calibre, notamment quand il y a eu des gros soucis de production. Donc ça arrive. Et puis nos consommateurs comprennent, on communique et ils comprennent très bien. Ils sont allés assez solidaires. Voilà, donc ça nous arrive régulièrement de faire ça. On a une marge qui est moins élevée sur les produits locaux que sur le reste des produits qu'on achète, qui peuvent être... Enfin, la majorité sont français. Et enfin, on peut soutenir les producteurs de manière assez ponctuelle, pareil, ceux qui ont vraiment des difficultés pour des échéances, les régler plus vite que ce qu'on fait, etc. Donc, on travaille avec, vu qu'on est une coopérative, on est en SCOP, avec nos associés. Ça arrive ponctuellement quand on a des producteurs en difficulté, on en parle tous ensemble et on voit ce qu'on peut faire pour les soutenir.
Locaux du bio. Bien, peut-être pour conclure, Adrien, comme on est en janvier 2026, j'avais envie de vous demander ce qu'on peut souhaiter à la GAEC et à votre famille pour cette année.
Déjà plein de bonheur, la santé et d'avoir une belle récolte de pommes.
Bon, bah, c'est ce qu'on vous souhaite. Et puis, bien sûr, j'invite à nouveau nos auditrices et auditeurs à venir goûter vos pommes. C'est la topaze que vous nous avez indiquée comme étant votre préférée, si je ne dis pas de bêtises. Camille, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as une astuce du jour à nous partager par hasard ?
Et oui, j'ai une petite astuce, donc plutôt orientée santé. Je vais vous parler des jus détox. Donc le jus détox, c'est une boisson qui soutient le processus naturel de détoxification de notre corps. Et tout d'abord, notre corps possède déjà un système de détoxification interne. En effet, le foie, la peau, les reins, les intestins, les ganglions lymphatiques et même les vaisseaux sanguins en font tous partie. Ils filtrent et éliminent les déchets de notre circulation sanguine. Mais on peut soutenir ce système de détoxification naturelle, surtout après les fêtes de fin d'année, l'épiphanie, etc. Et cela permet d'améliorer la digestion, ça booste l'énergie, ça régule la glycémie. Donc je vais vous proposer deux recettes. Donc il y en a une, il suffit de quelques fruits et légumes. Donc il faudrait une betterave qui stimule la production de bile et donc la détoxification du foie. Deux branches de céleri, c'est un diurétique naturel. Un morceau de gingembre frais pour améliorer la digestion. Une carotte riche en vitamine A. Un demi jus de citron et du persil frais. Vous pouvez soit utiliser un extracteur de jus ou alors mixer chaque ingrédient et filtrer à la main. C'est un peu plus de temps de travail. Et le deuxième jus, qui est un peu plus fruité, faudrait 3 carottes pour la vitamine A, toujours bon pour le foie, un morceau de gingembre frais pour la digestion, une pomme qui apporte des fibres et des antioxydants, et un demi jus de citron. Voilà, donc ces deux jus, donc le jus détox carotte-gingembre, qui est assez classique, et le jus détox betterave-céleri-gingembre-carotte-citron.
Donc ça fait deux solutions pour des boissons détox, comme tu viens de nous l'expliquer, en ce mois de janvier, qui est souvent lié aussi au dry January, pour ne pas boire d'alcool par exemple, après les fêtes comme tu viens de le dire Camille. On arrive à la fin de cette émission, je tenais quand même à vous remercier encore Adrien Meji, donc du GAEC de la Morelle à Melves. Merci à vous de vous être déplacé depuis les Alpes de Haute-Provence pour venir nous parler.
Et merci à vous de m'avoir donné la parole.
Et Camille, évidemment, merci aussi, bien sûr, Camille Danel, chargée de communication de la Biocoop Le Grenier à Gap. Merci toujours d'être fidèle compagne de cette émission. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés pour ce premier épisode des Locaux du Bio de l'année 2026. À très bientôt, bien évidemment.
Merci.
Merci.